10h, 11h, rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, ces rencontres, le plaisir d'une rencontre ce dimanche matin avec Gilles Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Gauthier, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Ce livre vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous l'aurez compris, 50 ans de passion pour le monde arabe, c'est dire si le rendez-vous est important pour vous, Gilles Gauthier. Vous avez parcouru quelques pays du monde arabe et pas des moindres. Vous êtes allé en Algérie, au Maroc, en Égypte, au Liban, en Irak, pendant de longues années de votre vie. Les trois quarts de votre vie, peut-être, sont dans ce monde arabe pour parler de 50 ans de passion.
Oui, c'est un peu plus de 50 ans maintenant. J'ai dit 50 ans quand j'ai commencé à écrire, mais c'est un peu plus de 50 ans. Et puis ce n'est pas parcourir, c'est vivre.
C'est y vivre, bien sûr, c'est une partie de, j'ai souligné oui, la partie oui, de votre oui, vie, oui. Bien évidemment. Vous n'étiez pas un voyageur, vous non. étiez un homme qui avait eu la passion de ce monde arabe. Alors justement, comment est née cette passion? Vous êtes originaire de Gironde, près de Bordeaux.
Oui.
Et puis, très jeune, vous quittez la France pour
oui.
aller parcourir.
Oui, alors au début de toute vie, il y a souvent un hasard. Le hasard a voulu que je sois donc recruté pour le service militaire en coopération pour l'Algérie à 22 ans. Et on aurait pu me proposer une autre affectation. Alors je ne sais pas ce qui serait passé. Est-ce que j'aurais eu la même passion? Est-ce que, au contraire, après mon service militaire, mes 2 ans de service d'enseignement, je serais revenu en France? Je ne sais pas. Mais il se trouve que, et même dans le monde arabe, si j'avais été ailleurs qu'à Batna, peut-être que ça serait passé différemment. Parce que l'affectation à Batna m'a plongé tout d'un coup à l'intérieur du pays. Et l'accueil qui m'a été réservé dans cette petite ville, qui était vraiment très petite à l'époque, peut-être que ça a été déterminant.
Parce que quand je rappelais qu'effectivement, plus qu'un voyage, votre vie dans ce monde arabe, c'est plusieurs années à chaque fois. C'est vraiment une installation
oui.
au cœur de la ville,
oui.
au cœur des gens,
oui.
au cœur de la société en question.
Oui. Mais en Algérie, par exemple, je suis resté 5 ans. Alors, entre 66 et 71, donc très peu de temps après l'indépendance. C'était 4 ans après l'indépendance quand je suis arrivé. Et puis, il y a eu Batna, Alger, à nouveau Batna, Tlemcen.
Tlemcen, oui.
Mais de toute façon, c'était Batna qui était au centre, où je revenais de toute façon.
66 et 71, vous êtes donc dans une Algérie au lendemain presque de son indépendance, l'Algérie qui se construit. Pendant ce temps-là, au cœur de la France, en tout cas dans sa capitale, se passe mai 68. Et comme je le pose aux invités à chaque fois depuis ce mois de mai et ce mois de juin, 68, on commémore cette révolution, une oui. certaine révolution en France en 68. Que faisiez-vous? Vous étiez donc en Algérie?
J'étais en Algérie et je dois dire que c'est passé inaperçu. J'essaie de me souvenir de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Pas grand-chose. Simplement, pendant l'été qui a suivi, je suis allé au Festival d'Avignon et oui, à ce moment-là, j'ai partagé l'effervescence.
Le bouillonnement de la production qui était née de cette révolution, sans doute.
Mais
production artistique, culturelle.
Mais comme je n'étais pas résident en France et que je n'allais pas y être avant longtemps, ça n'a pas été au cœur de mon...
De vos préoccupations.
Oui.
Donc toujours pour rester sur l'Algérie, après on parlera de d'autres séjours dans ce monde arabe. Dans cette Algérie, vous êtes enseignant d'abord.
Oui.
Vous restez donc ces 5 premières années,
oui.
ces 5 années. Vous deviendrez plus tard diplomate aussi?
Plus tard.
Beaucoup plus tard.
En Algérie, je suis enseignant. J'ai une petite expérience aussi de quelques mois à la Chambre de commerce d'Alger, qui m'avait beaucoup intéressé. Et puis, l'essentiel, c'était enseignant. Diplomate, c'est venu plus tard, puisque étant en Algérie, j'ai commencé à apprendre l'arabe, bien que le pays soit très francophone et que la plupart de mes conversations avaient lieu en français, la plupart de mes amis parlaient français. Mais tout de même, j'avais commencé.
Vous aviez commencé donc en Algérie à parler, à apprendre le français. Voilà.
Ça vous allez couper.
Vous aviez en Algérie, vous appreniez le.
Alors, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Alors l'arabe dialectal, l'arabe j'hésitais un petit peu. J'ai commencé à apprendre à écrire. Puis ensuite j'ai eu 5 ans au Maroc. J'ai continué à apprendre l'arabe. Et après quand je suis rentré en France, j'ai fait les langues O, l'INALCO. Et après l'INALCO, j'ai passé le concours des affaires étrangères. Voilà comment était le parcours. Donc aux affaires étrangères, je ne suis rentré qu'en de 1982. En 82, donc entre 66 et 82, voilà, j'étais enseignant à cette époque.
En 82, vous passez le concours des affaires étrangères, vous devenez donc la diplomate, cette fonction de diplomate français à l'étranger. Et là, vous voyagez vous avez des postes plutôt, dans ce monde arabe.
Alors, mon premier poste, c'est l'Irak, mais mon second poste, dès 84, c'est l'Algérie. Donc, il ne s'est pas écoulé un temps très long. J'ai toujours là-bas des amis, parce que à l'époque où j'ai quitté l'Algérie, mon premier séjour pour le Maroc, ça c'était en 71. Je continuais à me rendre en Algérie. C'était à côté. Donc, tous les ans, je faisais un tour, je revoyais des amis. Donc, finalement, quand je suis revenu en 84, c'était encore très vivant. J'avais encore beaucoup de gens à Batna, à Biskra et à Alger même que j'ai retrouvé.
Mais en même temps, la fonction de diplomate n'est plus la fonction de l'enseignant. Vous aviez une posture officielle, politique, vous deviez assurer. Vous représentiez la France dans ce pays à ce moment-là.
Oui, bien sûr. Alors, mon grade n'était pas très important. Enfin, ça s'appelait conseiller de presse, premier secrétaire, mais il y avait à l'ambassade des gens plus importants que moi. Ça me laissait quand même beaucoup de liberté de comportement. Je vivais normalement, je circulais normalement. Mais c'est vrai que ça changeait le regard des gens sur moi.
Et vous, le regard que vous aviez sur l'Algérie, au-delà du regard des citoyens, de l'amitié, des rencontres, il y avait le regard politique.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que, mais je continuais tout de même dans mes relations avec les gens à avoir les mêmes rapports. Alors, le regard politique, je l'avais déjà, vous savez, dans cette première époque en Algérie où j'étais professeur, j'avais fréquenté énormément de gens qui venaient de faire la guerre, d'anciens moudjahidines, j'étais très ami d'un poète, Jean Sénac.
Jean Sénac, oui. Très, très beau passage autour de l'amitié avec Jean Sénac dans votre livre aussi.
J'étais déjà en plein plongé là-dedans et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, ce qui continuait à se passer. Mais parfois, le regard de certaines personnes, chez certaines personnes, il pouvait y avoir une méfiance qu'il n'y avait pas dans mon premier séjour.
Et c'est assez bien décrit d'ailleurs dans votre livre, puisqu'il y a les deux passages, il y a les deux périodes votre séjour en Algérie. Il y a cette période que vous venez de décrire avec les gens, et puis après il y a la période où vous faites l'analyse politique.
Je fais une analyse politique de la situation.
L'installation de Boumédienne, ensuite celle de Chadli, comment évolue l'Algérie dans cette au lendemain de son indépendance. Le lendemain, c'est même 10 ans après, mais en même temps, c'est si peu de temps.
J'ai réservé de placer dans cette seconde partie toutes les réflexions politiques, même celles que j'ai pu avoir dans la première partie. Oh. Par exemple, pour ce qui est de Boumédienne, je l'ai vécu dans la première partie. Contrairement à beaucoup de gens, d'ailleurs, je n'ai pas une vision totalement négative de Boumédienne. C'est-à-dire, je replace ça dans son époque. Cette époque, alors bien sûr, Boumédienne est arrivée à la suite d'un coup d'État, mais il ne faut pas non plus embellir le régime qui précédait, parce que c'était pas non plus une démocratie. La démocratie avait été tuée dès le début, dès la première année de l'indépendance. Donc le régime de Ben Bella n'était pas non plus une démocratie. Boumédienne était quand même le ministre de la Défense. Donc il y a eu cette rectification apportée par Boumédienne qui a pris les choses en main. Mais en même temps, il a construit. En même temps, si vous voulez, quand il est arrivé, l'Algérie avait 3 départements. Il a créé de nouveaux départements, toute une administration. Des écoles en quantité. Donc il y a un pays qui s'est construit. Alors il s'est construit d'une façon souvent erronée. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais est-ce que les erreurs du passé, il faut les juger avec les yeux d'aujourd'hui? C'est difficile. Boumédienne est mort en 79, si je ne m'abuse. On ne peut pas savoir ce qu'aurait été. Il était jeune. On ne peut pas savoir ce qu'aurait été son parcours par la suite. Et donc, là, c'est un personnage fondamental dans l'histoire de l'Algérie.
Dans l'histoire de l'Algérie, oui.
C'est tout et ce puis, qu'on peut dire.
Et avec puis après, dans cette séquence-là de 84 à 87, vous rappelez bien que votre fonction là de oui. conseiller de presse à Alger était aussi importante parce qu'on vous demandait aussi votre avis quelquefois sur le cours de la vie politique quand même,
oui.
puisque vous étiez observateur d'une certaine manière.
Oui, j'étais observateur. Mais alors, j'étais observateur, mais vous savez. Comment vous dire, on gérait la relation qui n'était pas mauvaise, on n'anticipait pas trop. J'ai assisté quand même, et ça je me rends compte, j'étais conscient, j'ai assisté à la montée du courant de l'islam politique, hein, qui a donné par la suite la guerre civile. Et j'ai assisté à ça et je m'en suis rendu compte. Mais est-ce que je m'en suis rendu compte suffisamment pour qu'à l'ambassade je prêche dans ce sens, que je dise qu'il y a quelque chose d'important qui se passe? Non, j'ai eu plusieurs indices qu'il y avait cette possibilité. Je n'étais pas sûr que ça se passerait comme ça, mais effectivement par des amis. Par exemple, j'avais le cousin d'un ami qui était un frère musulman dur, et donc j'avais été chez lui, on avait discuté. Et puis il y avait donc le festival de Rail d'Oran, qui était le contraire, là, c'était la gaieté, la jeunesse. Donc ça oscillait entre ces deux pôles, si vous voulez. Je ne suis pas sûr d'avoir tout prévu. Je pense qu'on ne prévoit pas les choses. Les gens qui disent qu'ils ont tout vu venir.
Ah ben, 1988 en Algérie, les gens, le politique n'a pas vu venir ce soulèvement de la jeunesse.
Il y en avait eu un avant, là, oui. Juste avant, en 60. Il y en avait eu un en 87 déjà, un soulèvement de la Casbah.
Oui, bien sûr.
Mais qui n'avait pas été sanglant, celui-là.
Qui n'avait pas été sanglant, puis c'était un soulèvement pour justement contre les inégalités et puis tout ce qui se passait, la pauvreté au cœur de la capitale.
Oui, oui.
La Casbah avait eu toute une histoire au sens politique.
Moi, j'ai vécu dans la
Casbah. Oui, vous décrivez la Casbah.
J'aimais beaucoup. À l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'était un quartier assez chaleureux, assez... et j'aimais bien aller depuis la maison. J'étais à Sidi Abderrahman, juste en face, c'était chez les Pères Blancs.
Voilà.
Et j'allais de là jusqu'à mon époque sur le Telemli. C'était quand même sacré. Enfin, c'était quand même presque une heure de marche. Et c'était assez sympathique.
Mais la Casbah est toujours pleine de vie. Hein.
Oui.
Il y a encore des gens qui habitent à la Casbah. Il y a plus de 600 familles encore qui vivent à la Casbah.
Oui.
Elle a été restaurée. Elle est un des patrimoines de l'UNESCO.
Ah bon.
Elle a une restauration et elle a une vie.
D'accord. Moi, je ne l'ai pas revue depuis longtemps. Oui.
On reviendra justement sur votre retour dans ces pays que vous avez traversés. On va quitter peut-être l'Algérie pour se rendre dans un autre pays au cours de tout ce que vous avez traversé. Je l'ai rappelé, le Maroc. Vous avez traversé le Liban, l'Égypte, le Yémen aussi. Le Yémen, c'était il y a une dizaine d'années.
Oui, le Yémen, c'était mon dernier poste. J'étais ambassadeur au Yémen entre 2006 et 2009.
On va revenir sur toutes ces rencontres que vous avez faites dans ces pays du monde arabe qui restent une passion pour vous. Je rappelle que je reçois Gilles Gauthier, il est l'auteur de Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Ce livre vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès.
10h, 11h, rencontre avec Samia Messaoudi. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Gilles Gauthier, l'auteur de Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Ce livre vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors quand on voit, on lit votre ouvrage qui est une passion, effectivement, dans ce que vous décrivez de tous ces pays que vous avez connus, traversés, aimés. Vous le dites aussi, souvent vous parlez d'amour aussi pour ces pays. Vous aviez pris des notes à l'époque, vous avez ressorti des tiroirs. Comment sont restitués ces pays que vous avez traversés?
En fait, uniquement sur la base de la mémoire. J'ai de temps en temps, je tenais un journal, de temps en temps, je gardais des documents, des choses que j'avais écrites, mais je n'ai pas du tout pioché là-dedans. J'ai préféré faire confiance au filtre de la mémoire en me disant que c'était peut-être elle qui avait retenu ce qui était le plus important. Mon intention, c'était de parler de ce que je connais le mieux au monde, qui est effectivement le monde arabe et sa relation avec nous,
avec l'Occident de manière générale, ou avec la France en particulier.
L'Europe, je dirais. J'aime pas le mot Occident parce qu'on est toujours à l'ouest de quelque chose et à l'est de quelque chose. Donc, ouais.
Mais on oppose toujours l'Occident à l'Orient.
Oui, on oppose l'Occident à l'Orient. Moi, je poserais plutôt le nord de la Méditerranée au sud de la Méditerranée. Et donc, c'est ça que je connaissais le mieux. Donc, je me suis dit que je voulais parler de ça et que la meilleure façon d'en parler, c'est de suivre la chronologie de ma vie, mais quand même en privilégiant dans ma vie tout ce qui concerne le monde arabe. Par exemple, un pays compte beaucoup pour moi, c'est la Grèce. L'Espagne aussi compte beaucoup pour moi. Je n'en parle pas. Donc c'est pas.
Juste, on peut lire ici et là vous avez voyagé en Grèce.
Voilà. Mais c'est pas. Voilà. Et j'aurais pu écrire des pages là-dessus. Donc c'est vraiment concentré sur ce monde arabe qui est quand même ce que j'ai connu le plus. Et je pense que si vous voulez, nous ne sommes pas nombreux, bien sûr que je ne suis pas le seul, mais nous ne sommes pas nombreux à avoir vacillé, à être. Entre les deux, comme je l'ai été souvent, c'est-à-dire je me suis souvent situé plus entre les deux que d'un côté regardant l'autre côté. Et souvent encore maintenant, dans les discussions que j'ai, dans les conversations que j'ai une position dont je ne sais pas si le regard est situé au nord ou s'il est situé au sud. C'est ça que j'ai voulu essayer de rendre.
Alors, on va quitter l'Algérie, vous en parlez passionnément, et c'est vraiment un ouvrage à lire qui est très très agréable, et dans sa lecture et dans cette rencontre avec ces pays du monde arabe que vous avez, où vous avez vécu, Gilles Gauthier. On va aller au Maroc. Le Maroc est une autre configuration. C'est juste à côté de l'Algérie,
oui,
certes, mais
oui.
C'est un autre mode de vie, d'une certaine manière, une autre vie politique.
Oui, tout à fait. Alors, bon, je voudrais pas que les amis marocains qui vont lire ce livre risquent d'être choqués, puisque dans mon expérience marocaine, il y a, au cœur de mon expérience marocaine, il y a une expérience de relation avec les Sahraouis, avec le Polisario. J'aime beaucoup le Maroc, j'ai été très heureux au Maroc, en dehors même de cette relation avec le Polisario. Mais il est vrai qu'arrivant à Agadir, d'abord j'ai passé un an à Larache, au nord du Maroc, mais Araïch, mais ensuite arrivant à Agadir, à Inesgan exactement, je me suis trouvé avec des élèves sahraouis et tout de suite j'étais assez jeune encore et tout de suite ces élèves m'ont amené chez eux à Tantan, au sud du Maroc, et m'ont fait participer à leurs activités. Sans que je me rende bien compte, d'ailleurs, au départ, ce n'est devenu qu'une activité volontaire que par la suite, ou vraiment un engagement. Au départ, c'était une relation amicale. Et donc, j'ai connu le Front Polisario à sa naissance, puisqu'il était né en mai 73, et moi, je suis arrivé à Inesgan, à côté d'Agadir, au lycée d'Inesgan, en octobre. Donc, c'était les gens que j'ai connus étaient les frères, réellement les frères. C'est-à-dire, il y avait le frère de Al-Wali, qui était le grand chef sahraoui, il y avait le frère de celui qui était premier ministre sahraoui plus tard. Enfin, et donc, j'ai connu tous ces gens, et donc, ça s'est mal terminé. Pour moi, pas très mal, puisque je n'ai pas été torturé, mais j'ai été arrêté, j'ai été amené dans
Parce que vous preniez position pour qu'il y ait une reconnaissance d'un territoire sahraoui.
J'ai aidé mes élèves et j'ai aidé ce mouvement à faire au pas des choses. C'était pas des bombes, hein, c'était des tracts.
Une autonomie à revendiquer leur.
Je veux dire, leurs actions étaient des actions qui serait légal dans un pays démocratique.
Le droit à disposer de.
C'était simplement de distribuer des tracts ou des actions de ce genre. Il n'y a jamais eu d'action terroriste de la part des Sahraouis. Et voilà. Donc j'ai cette relation qui a peut-être occulté ma relation avec l'ensemble du Maroc.
Ouais. Et vous êtes resté combien de temps au Maroc? 5 ans là aussi.
5 ans aussi.
5 ans aussi.
Oui.
C'est la fonction qui veut que vous restiez 5 ans
non,
quand on est
non, non, mais
quand on est diplomate encore aujourd'hui.
Non, mais pas diplomate.
Là, vous n'étiez pas diplomate, certes, mais
j'étais j'aurais pu rester plus longtemps, mais j'étais expulsé, donc je pouvais pas rester plus. Mais c'est vrai que je serais sans doute resté plus longtemps.
Mais 5 ans, c'est important aussi dans votre parcours bien et avec tout ce que vous dites là comme charge d'histoire.
Mais en m'expulsant, le roi du Maroc a fait une chose utile parce que ça m'a obligé à me resituer ailleurs. Sinon, je me serais peut-être endormi dans le charme de cette vie d'Agadir, qui est très agréable.
Ouais. Entre l'Algérie et le Maroc et d'autres voyages à Beyrouth ou en Irak ou ailleurs, ou en Égypte, vous posez en France ou il s'enchaîne assez vite?
Oui, long séjour en France, pas très long. Il y a eu, donc, entre mon expulsion du Maroc en 77, je suis resté en France jusqu'en 82, avec quand même une interruption d'un an pour aller en Syrie étudier l'arabe. Donc pendant ces années-là, j'étais professeur, en tout c'était 4 ans d'enseignement à nouveau, j'étais professeur en banlieue ici, et j'étais professeur donc en banlieue à Ivry, puis ensuite à mon retour, j'étais à Ivry, le nom du collège, j'ai oublié maintenant, je ne sais pas si c'est pas Politzer, mais... C'était, en tout cas, j'étais professeur à Ivry et plus tard, j'étais professeur à... ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça ne fait rien, on va continuer. C'était... Et je me suis rendu compte, alors là, vraiment très, très nettement, je me suis rendu compte qu'il y avait une situation qui allait se dégrader, qui commençait à se dégrader. Et ça, alors là, c'était... pas du tout un souvenir truqué. Je me suis rendu compte à l'époque que il y avait un effort politique à mener considérable qui n'a pas été mené.
Oui, absolument. Voilà. Vous continuez, vous repartez donc dans les années... Alors on est dans les années 80. Dans les années 80, vous allez d'abord à Beyrouth.
Pendant mon séjour à Paris, je continue à voyager dans le monde arabe. Ouais. Et pendant mon séjour à Paris,
vous faites des allers-retours, Beyrouth, Damas.
Voilà, c'est ça. Et je fais un an de stage. Alors, pendant ces 5 années, il y a une interruption d'un an pour faire un stage d'arabe à Damas.
À Damas.
À ce qu'on appelait à l'époque l'IFEAD, l'Institut français... d'études arabes de Damas, et là je fais un stage d'arabe qui m'a bien renforcé mon niveau d'arabe. Après,
on va revenir un peu plus tard dans ce rapport à la langue arabe que vous avez, parce que elle est absolument magnifique. Vous êtes quand même le dire tout de suite que vous avez été traducteur de d'auteurs arabes et notamment du livre de Alal al-Aswani.
Alal al-Aswani, mais c'est pas seulement un livre, c'est tous ces livres.
Oui, le Yacoubian qui était le livre le plus connu, mais vous avez beaucoup traduit, évidemment.
Et il y en a un qui va sortir à l'automne, qui va s'appeler J'irai vers le Nil, et le livre est déjà traduit, je suis en train actuellement de corriger les épreuves.
D'accord. Ça va sortir aux éditions Actes Sud?
Je pense, en septembre.
À l'automne. On aura l'occasion d'en parler, j'espère. En tout cas, vous êtes un féru de la langue arabe et vous avez vraiment la langue arabe au cœur. Et plus que ça.
Oui.
À l'esprit aussi.
Arabe, les peuples arabes, au cœur et donc avec leur langue, c'est évident, on peut pas.
Alors ce séjour en Irak, 1982-1984, il a été aussi un séjour important pour vous parce que là on a quitté le Maghreb, on est dans d'autres sociétés, sociétés qui sont à multiples cultures, à multiples religions, à multiples ethnies, conflits aussi, tout ça.
C'est vrai que c'est très différent du Maghreb. C'est vrai aussi que là, vraiment, plus que en Algérie où je vais par la suite, le fait d'être diplomate me coupe totalement de la société, mais ça tient aussi au régime qui régnait, qui faisait qu'on dressait des murs entre nous et le reste du pays. Et là, je découvre la vie diplomatique, la vie au sein d'une ambassade. C'est assez amusant. J'espère que je l'ai rendu le côté parfois un peu.
Oui, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse aussi dans votre écriture. Il y a vraiment un attachement.
Mais l'Irak a été une expérience très très intéressante effectivement. Mais le pays auquel je vais m'attacher, les pays auxquels je vais m'attacher le plus, je pense, sont le Liban, où pourtant je ne suis resté que 2 ans en poste, mais où je suis revenu souvent, et l'Égypte. Le pays qui va devenir mon pays de prédilection,
c'est l'Égypte.
C'est l'Égypte.
Ouais. L'Irak, vous n'y restez pas longtemps. Effectivement,
non,
aussi, vous
non.
y restez que 2 ans.
Oui.
Mais c'est suffisamment dense aussi.
C'est très dense,
L'Irak,
oui.
dans les
oui.
années 80, c'est
oui,
quand même
oui.
une période difficile que traverse le pays.
Oui, oui, oui. Et je suis revenu en Irak à l'époque des otages par la suite, hein, mais pour un séjour d'un mois et demi simplement. oui, oui, c'est une. Alors, comme vous disiez, c'est très différent du Maghreb. Il y a ces communautés chrétiennes, par exemple. Il y a toute une vallée qui a beaucoup souffert de Daesh, qui était entièrement chrétienne, juste à côté de Mossoul. Il y a encore d'autres religions, comme ces fameux yézidis, donc que l'on dit adorateurs du diable, qui en fait n'adorent pas le diable, mais c'est une religion un peu compliquée. Il y a même une religion de gens qui se réfèrent à Saint Jean-Baptiste, qui sont, enfin, c'est, la complexité du Moyen-Orient est extrême.
Voilà, comme au Liban, avec toutes ces ethnies, avec toutes ces religions aussi. Mais Bagdad a une particularité aussi, c'est aussi d'avoir ses quartiers, avec ses religions, avec ses ethnies.
Oui.
Vous avez rencontré, vous étiez où quand vous étiez en Irak, au cœur de Bagdad, vous avez?
Quand j'étais en Irak, j'étais dans la maison, enfin, j'avais la moitié de la maison d'une dame arménienne. Et j'étais dans un quartier plutôt arménien.
Ouais.
Voilà.
Et donc, sur d'autres pays, on va revenir sur d'autres pays que vous avez traversés, mais peut-être s'arrêter sur le Liban. Parce que le Liban aussi, tout à l'heure, vous vous rappeliez qu'effectivement, vous n'aimiez pas cette idée de Orient-Occident.
Oui.
Alors, on va parler de Liban, Europe, et puis comment on regarde aujourd'hui le Liban avec toute sa diversité, parce que le Liban a traversé des cultures, des ethnies et des guerres aussi.
Oui, le Liban, alors au Liban, j'étais là vraiment, j'ai joué un rôle en tant que diplomate, un rôle assez important, puisque c'était à une époque où nous avions une excellente relation avec le Premier ministre Rafik Hariri, et la France avait une politique déterminée, qui était, de mon point de vue, une bonne politique. Donc là, au Liban, le travail diplomatique avait tout son poids. Mais la société libanaise était donc à la fois extrêmement diverse, fluide, souple, ouverte sur le monde et intelligente. Et courageuse également. Enfin, je ne sais combien de qualités. La seule qualité qui manque aux Libanais, mais ce n'est pas leur faute sans doute, c'est de savoir s'unir pour un avenir commun. Mais au Liban, vous avez effectivement, dans l'esprit des gens, dans la tête des gens, dans la culture des gens, ce lien très fort entre les cultures, alors on peut employer le mot, si vous voulez, d'occidental et oriental, mais les Libanais sont des gens qui sont au minimum bilingues, mais très rarement bilingues. Ils sont généralement trilingues et parfaitement trilingues, c'est-à-dire qu'ils peuvent écrire, penser dans les trois langues.
Oh.
Et voilà.
On va se retrouver dans un instant, Gilles Gauthier, pour la dernière partie de notre émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Ce livre vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Et on va partir au Yémen et on va finir en Égypte, si vous le voulez bien.
10h, 11h,
10h, 11h.
Rencontre avec Samia Messaoudi. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
L'invité de rencontre ce dimanche matin est Gilles Gauthier. Il est l'auteur de Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Ce livre vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Il est effectivement question de passion. Vous en parlez passionnément, Gilles Gauthier, de ces pays où vous avez vécu. Vous ne les avez pas traversés, vous y êtes installé passionnément à vous entendre au cours de ces rencontres ce matin. On va évoquer le Yémen et on va terminer ensuite avec l'Égypte qui est peut-être dans le temps. Non, c'est plutôt le Yémen d'ailleurs qui est arrivé plus tard dans vos séjours, 2006, 2009, 3 ans.
L'Égypte, j'y suis toujours.
Et l'Égypte, vous y êtes toujours. Ce matin à Paris, mais souvent au Caire.
Oui.
Le Yémen, alors pour vous, c'est quelque chose alors là de très très
triste.
Triste, ouais.
Parce que c'est un pays formidable où les gens sont très libres, très hospitaliers, mais avant tout leur qualité première, c'est cette grande liberté qu'ils ont de liberté de, d'idées, liberté de comportement, liberté. Et c'est un pays extrêmement, une histoire très ancienne et en même temps, qui est un pays très pauvre, certainement très pauvre, mais de grande culture et de grande culture qui continue, c'est-à-dire qu'il y a des familles. Bien sûr, c'est pas toute la population, mais il y a des familles qu'on appelle, on les appelle les juges, le roda. Mais ces familles-là sont des familles qui ont des bibliothèques privées avec des ouvrages
des livres, de livres anciens.
Siècles, oui. Et il y a une tradition culturelle qui s'est perpétuée. Et simplement, ce pays actuellement est victime d'une guerre terrible.
Dont on ne parle pas ou peu.
Interne certainement d'un certain côté, mais quand même externe aussi. Et c'est celle-ci qu'il faut dénoncer. La guerre interne, bon, on peut essayer d'aider les Yéménites à se comprendre. Mais la guerre externe, c'est tout de même l'Arabie Saoudite qui bombarde quotidiennement le Yémen et les Émirats qui sont présents aussi au Yémen Sud. Bombardement et blocus. Et ça, je pense qu'il faut y mettre fin.
Et le monde entier n'en parle pas.
Et le monde n'en parle pas, pas beaucoup, très peu, malgré les efforts de certains yéménites, comme mon ami Khadija El Salami, qui a fait de très beaux films là-dessus. Ouais. Mais voilà, et nos gouvernements, notre gouvernement doit faire quelque chose pour mettre fin à cette situation, pour essayer de mettre ensemble d'accord les parties. Il ne s'agit pas de punir quelqu'un ni de condamner, il s'agit de parvenir à mettre fin à ce blocus, à ce bombardement. Mmh. Et ça, c'est notre responsabilité.
Absolument. L'Égypte passion pour l'Égypte, vous. Donc, vous y allez pour la première fois en 1999 ou vous
non,
y êtes allé avant, bien
j'y
avant ?
Bien avant.
Parce que là, c'est dans le livre, on est dans la période 99-2003.
Non, mais j'ai aussi la période.
Vous avez aussi une autre période.
Alors, il y a
période.
Aussi conseiller culturel entre 91 et 95. Je suis au Caire, conseiller culturel. Mais avant ça. La première fois que je vais en Égypte, c'est en 64. Mais là, c'est vraiment un voyage. Je vais jusqu'à Djibouti, à travers le Soudan et l'Éthiopie, avec en stop, en train, en bus, enfin tous les moyens possibles. Et ensuite, à partir de 75, je reviens pratiquement tous les ans en Égypte, depuis l'endroit où je suis, soit depuis la France, soit depuis les pays où je suis. Mais à partir de l'Égypte, ma relation est très ancienne et très constante. Ensuite, il y a effectivement ce poste de conseiller culturel entre 91 et 95, et puis ensuite le poste de consul général à Alexandrie à partir de 99 jusqu'à 2003. En tout, les deux pays où j'ai vécu le plus sont l'Algérie et 8 ans. L'Algérie et l'Égypte.
Mais... Et l'Égypte où vous avez vécu si longtemps, comme vous le dites, Gilles Gauthier, c'est une Égypte que vous avez vue se transformer. Évoluer, bouger, son bouillonnement avec son printemps arabe qu'elle a eu elle aussi jusqu'à aujourd'hui.
C'est une vraie révolution, une belle révolution. Oh. Alors oui, c'était un moment extraordinaire, c'était un moment, mais qui n'est pas seulement un moment, parce que ça agit en profondeur. Alors maintenant, on est à marée basse. Maintenant, ce n'est plus du tout l'enthousiasme de la révolution. C'est un régime qui réprime. C'est donc, mais cette énergie dépensée pendant la révolution, je la retrouve dans toute une jeunesse qui n'a pas renoncé, je crois. Alors, bien sûr, cette jeunesse sait que c'est pas possible maintenant d'aller dans la rue, ça c'est inutile, c'est suicidaire. Mais en revanche, elle a changé dans ses modes de vie, dans ses idées, et elle est en train de transformer la société. Et sans qu'on s'en rende compte de l'extérieur, il y a une grande évolution qui est en train de se faire dans le monde arabe en entier. D'ailleurs.
Dans le monde arabe, j'allais, oui.
Dans le monde arabe en entier, mais en Algérie, je la suis de plus près, puisque c'est le pays où je vis le plus souvent. Et je pense que tout ce qui s'est passé en 2011 en Algérie, en Tunisie, l'expérience démocratique continue, au Yémen, il y a eu une belle révolution aussi au Yémen, et en Syrie, c'est la situation la plus désespérée, mais je pense que tout ça est en train de bouillir, de germer. Leïla Shahid disait un jour, il y avait une discussion avec elle, et elle disait, oui, le monde arabe va mal, mais les sociétés arabes sont dynamiques et créatives, et elles vont bien, alors qu'elles Elles vont bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire elles vont bien. Mais elles sont dynamiques, créatives, en pleine ébullition, et je crois porteuses d'avenir.
C'est vrai qu'au travers de la création, vous parlez d'Égypte, il y a des films qui sont sortis sur la situation en Égypte, oui. Il y a eu deux grands beaux films, hein,
oui.
Le bus 728, notamment, qui racontait justement des combats de, enfin, les femmes contre le harcèlement dans les bus.
Oui,
mais il n'y a pas eu que celui-là, il y a eu d'autres films. Oui. Il y a d'autres créations.
Oui.
Je crois que la création, elle est porteuse aussi d'espoir et d'un nouveau mode de vie dans les pays du monde arabe.
Il y a la danse, la musique, énormément de choses. Et puis, il y a une façon de... Il y a l'écriture. Il y a beaucoup de gens qui écrivent aussi, qui cherchent à trouver une nouvelle façon d'écrire, qui jouent avec la langue, avec plus de liberté. Non, il y a énormément de choses qui se passent. Et les gens s'emparent de plus en plus de leur individualité. C'est-à-dire, au lieu d'être seulement les membres d'une société, les membres d'une famille, souvent écrasante quand même.
Mmh.
Les gens récupèrent maintenant leur identité, leur liberté de choix. Mmh. Ça, c'est une grande nouveauté.
On a évoqué tout à l'heure votre passion aussi dans la langue
oui.
arabe. Vous êtes traducteur de nombreux ouvrages arabes, et donc ils vont être traduits en français. Quelle est votre activité aujourd'hui, Gilles Gauthier? Je suis sûr que vous arrêtez officiellement sur une activité de diplomate, je crois, d'enseignant aussi.
Oui, mais maintenant presque 10 ans, 9 ans que je suis en retraite.
Ouais.
Mais j'ai une activité donc de traducteur qui continue, puisque un livre va sortir de Halal Aswani va sortir
à l'automne
que je viens de traduire. Et également, je suis présent, je suis à l'Institut du Monde Arabe, je suis conseiller de
Jacques Lang, qui est le président. Oui.
Et à ce titre, sans être membre de la... Comment dire, je suis conseiller de Jacques Lang, je ne suis pas payé, je suis là à titre bénévole, mais j'ai participé à deux grandes expositions.
Celle qui a lieu actuellement sur le canal de Suez.
Et avant, il y avait eu celle sur l'Orient Express. Et je participe également au rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Donc voilà, ce sont des...
Donc, toujours en pleine activité, toujours en pleine passion du monde arabe.
Ma foi. Oui.
Merci infiniment Gilles Gauthier d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM nous parler d'Entre deux rives. Ce livre, je le rappelle, 50 ans de passion pour le monde arabe, il vient de sortir aux éditions Jean-Claude Lattès. On est à Paris ce matin, le prochain voyage dans le monde arabe, allez, dites-nous.
Le prochain voyage dans le monde arabe, ça va être au mois de
10h,
ça va être en novembre pour le Salon du Livre à Beyrouth. Et je dois dire qu'en été, ça va être la Grèce.
Ah ben voilà, la Méditerranée aussi,
qui
fait partie aussi de ce paysage du monde arabe, puisqu'il y a des pays.
Alors après, il y aura la Tunisie, je crois, et l'Égypte pour présenter mon livre.
Voilà, merci encore d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM. Au revoir à tous, au revoir à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de rencontre. D'ici là, passez une bonne semaine.
Merci beaucoup.
10h, 11h, rencontre avec Samia Messaoudi.